Bon. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. J'avais proposé de parler de construction en analyse et analyse sans fin, mais c'était un programme un peu ambitieux. Donc je vais le laisser pour une autre fois. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'il me semble difficile d'examiner ce que disait Freud dans ses textes avant de préciser certains points que nous présente Lacan. Alors, pour présenter les choses assez simplement, la répartition des névroses se fait sur un mode inégalitaire. Entre d'un côté, c'est la répartition que je propose, n'est-ce pas ? Entre d'un côté, enfin je ne sais pas moi qui l'ai proposé vraiment, hein. Entre d'un côté le discours de l'hystérique et de l'autre côté la névrose obsessionnelle. Je dis que c'est inégalitaire. La guérison suit cette répartition, sûrement, mais comment ? Mais comment ? Alors, dans les deux cas de figure, il y a les symptômes dont on peut guérir, et puis le symptôme qu'on aura supporté parce qu'il nous supporte. Alors l'anglais ici accentue bien l'équivoque quant à ce qu'on supporte et que le retour de l'anglais supporte avec supporter. Voilà, donc vous avez l'ambiguïté, enfin la double occurrence de support. Bon. Donc, guérit-on du discours de l'hystérique et des symptômes qui le supportent, ce discours ? Alors, je crois que le discours représente précisément la limite de ce qui ne peut pas guérir par définition. Et le symptôme hystérique ? Quel rapport entretient-il avec le discours ? Alors, reprenons les données que nous connaissons, les exemples. On prend toujours les mêmes, Lacan fait pareil, donc on ne va pas se priver. Le symptôme est constitué d'un trait emprunté à l'autre, trait qui marque ce dont l'autre manque. Pas ce que l'autre a, mais ce que l'autre, dont l'autre manque. Dans l'exemple de référence, c'est l'impuissance du père. Dora, et donc, ensuite, elle se plaint. Enfin, elle se plaint sur un mode un petit peu particulier. Et donc, le discours de l'hystérique, interroge l'autre. Non pas pour le mettre en difficulté, vous savez, l'hystérique questionne, mais pour résoudre un problème. Alors d'abord, il faut mettre le problème en équation, c'est-à-dire le mettre en scène. Donc j'enfonce des portes ouvertes, bien entendu, mais ça me paraît important de le rappeler. Le discours, le lien social, c'est cette mise en scène même, dont le ratage est appelé par Lacan « acting out ». Mettons que ce soit une question sur l'amour. Rater que le symptôme interprète, avant que l'analyste ne s'en empare à son tour. De quoi guérit-on ? Alors je répondrai d'un recul pathologique, ce dont on guérit, d'un recul pathologique devant l'exigence que le discours avait mis en place, où l'autre, le grand autre, régulièrement se montre insuffisant. Parce que le symptôme, c'est l'effet de ce recul. Je prends ici donc l'exemple de Dora, je le résume juste là, dans un accéléré. Je me contenterai de certains développements, pas toujours explicites. C'est ainsi que le symptôme, j'appelle le symptôme l'impuissance du père. Marqué au niveau des symptômes. Alors, la façon dont ça s'articule les symptômes et ce précisément reprend Freud, n'est-ce pas ? L'atout, entre autres, qui est un emprunt à l'atout du père, lequel représente la puissance du père. Je fais des rappels, mais enfin, je pense que vous connaissez ces choses-là. Alors, donc, l'atout, c'est le produit d'une mise en scène qui avait fini par une gifle. Vous vous rappelez, la faute à Monsieur K, ma femme n'est rien pour moi. Je prends les trucs à l'envers, n'est-ce pas ? Vous avez l'atout. L'atout est pris en charge par Freud dans l'analyse, donc. Et la résolution passe par Madame K, auréolée de s'occuper de l'impuissance du père. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours noté. C'est que pourquoi elle est l'idéal ? Bon, passons. Alors, évidemment, ça passe par Madame K, ça c'est le raté dont Freud lui-même s'apercevra un peu tard. Bon. Ce qui échappe, par contre, à cause du raté, c'est la fin, qui en principe devrait faire retour sur Monsieur K. Ici, je vous livre ma fantaisie. Bon, il y a des éléments pour la donner. Qui dit que Dora n'aurait pas épousé Monsieur K à condition qu'il ait pu faire une partie du chemin, évidemment aussi qu'il ne fût pas malencontreusement mort dans un accident d'auto. Pas de chance. C'est que le symptôme, contrairement au discours, dont on peut certes changer mais qui reste stable, le symptôme suppose un compromis possible, puisqu'il est lui-même le résultat d'un compromis. C'est ce que Freud appelle surdétermination. L'hystérique a à maintenir ses exigences. Alors, les exigences de l'hystérique, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que Lacan appelle le désir, dans le discours qui le caractérise. Mais aussi opérer un compromis avec l'agent mâle. L'agent mâle, après tout, vous écrivez agent comme vous voulez. Hein ? Un compromis avec l'agent mâle, c'est-à-dire une manœuvre qui permette à l'homme de faire face à son angoisse. C'est, je crois, ce qu'on peut approcher comme guérison. Alors, la névrose obsessionnelle dont on vient de parler, qui peut sans doute être incarnée par une femme, et ici je prends l'homme comme support, je dirais l'obsessionnel définit plus sûrement que l'hystérique, on l'a rappelé là juste avant, définit plus sûrement que l'hystérique la névrose comme telle. C'est pour ça que j'ai opposé discours hystérique et névrose obsessionnelle. Je rappelle que la névrose obsessionnelle est l'invention clinique qu'on doit à Freud. Le névrosé obsessionnel n'a pas de discours en propre, ni en salle, si je puis me permettre, même si souvent le discours universitaire peut lui agréer. En revanche, sa névrose n'est mélangée à aucun discours. Quelle guérison peut-il attendre, ce névrosé radical ? Alors, son exigence à lui, ce devant quoi il ne doit pas céder, son désir, bon, comme Lacan vers la fin, je n'aime pas trop ce mot qui est trop lourd de malentendus divers, mais enfin, bon, son désir rencontre un obstacle redoutable auquel il part de plusieurs façons, et plutôt que Freud, à sa suite Lacan, décrive de plusieurs façons, mais qui, au bout du compte, vise le même point. Ainsi, se constitue le symptôme qu'on peut réduire à cette pensée, n'est-ce pas ? La pensée, c'est cette crainte qu'il ou elle ne meure. Bon. Je renvoie ici à le mot. La crainte qu'il ou elle ne meure, responsable à son tour des effets qui s'enchaînent dans les multiples symptômes, rituels ou autres, que l'obsessionnel présente. Bien. Mais il y a une complication à cet endroit qui demandera à Lacan un remaniement assez long. Désolé de vous entraîner dans ces arguties, mais entre les hommes et les femmes, comme vous savez, la situation n'est pas absolument simple. Et c'est dans ce registre que Lacan va avancer l'opposition homme-femme occupant progressivement la place de celle entre hystérie et obsession. Et il se trouve que ce développement propose de répondre en partie à notre question. Pourquoi, comment ? Le symptôme a été défini par Lacan grâce à la métaphore chez l'hystérique. Et il est homogène à la métaphore paternelle et comme elle implique une opération de substitution. C'est comme ça qu'est définie la métaphore. Bien. Or, la transposition du symptôme côté obsessionnel ne va pas de soi parce que la métonymie qui en est le support n'implique aucun franchissement de la barre signifiante, aucune substitution. La difficulté est liée au statut de l'inconscient dans ce registre. Elle est due au fait que, s'il n'y a pas de franchissement, le mécanisme, fermeture, ouverture de l'inconscient, ou ce qu'il évoque aussi comme battement de l'inconscient, est perturbé. Il n'apparaît pas clairement. Disons que le symptôme obsessionnel nécessite une définition qui puisse intégrer cette spécificité. Alors il s'avère qu'une bonne partie de l'enseignement de Lacan est consacrée à ce problème. Et l'émergence de l'objectita va pour une part permettre de le traiter. En voie radiophonie, par exemple. Alors, il se trouve que ça comporte des conséquences sur ce qui serait la guérison du symptôme. Car une guérison, comme celle du symptôme hystérique, nécessite dans son principe une substitution, une métaphore. Si je schématise, il faudrait que M. K surmonte ses craintes et vienne à remplacer l'impuissance du père pour Dora. Ça c'est dans le meilleur des cas, n'est-ce pas ? Eh bien, je proposerai ici que l'analyse obtienne éventuellement ce résultat chez l'obsessionnel s'il accepte de se soumettre au discours de l'autre sous la forme du discours de l'hystérique, il n'y en a pas d'autre où il puisse se soumettre, et ce, quel que soit son partenaire. J'imagine que vous avez compris que le premier à s'y soumettre est Freud lui-même. C'est pourquoi j'ai une tendresse particulière pour ce film souvent décrié sous le titre « Freud, une passion secrète » ou en anglais « Freud, the secret passion » de John Huston, n'est-ce pas, que vous connaissez bien, parce qu'il montre cette docilité à l'hystérique autant que la confrontation aux symptômes de Freud lui-même. Peu importe ici l'exactitude ou la stricte concordance avec le scénario de Sartre, qui est plus qu'approximative. Bon, au bout du compte, il souligne la rencontre d'un homme aux prises avec sa pensée, décrite ici comme obsédante, et d'une femme qui supporte ou est supportée par le discours de l'hystérique. Alors, on en trouve la trace dans le séminaire des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Je lis rapidement la référence. Pour guérir l'hystérique de tous ses symptômes, la meilleure façon soit de satisfaire à son désir d'hystérique, qui est pour nous, à nos regards, elle, l'hystérique, de peser son désir comme désir insatisfait. Ça, c'est la méthode. Ensuite, ça laisse entièrement hors du champ la question spécifique de ce pourquoi elle ne peut soutenir son désir comme désir insatisfait. Ça, c'est la question de fond, on peut dire. Bien. Ça nous met sur la trace d'un certain péché originel de l'analyse. Il faut bien qu'il y en ait un. Le vrai n'est peut-être qu'une seule chose, c'est le désir de Freud lui-même, à savoir le fait que quelque chose dans Freud n'a jamais été analysé. Alors, la confrontation de la rencontre de l'hystérique avec l'impureté originelle. Pas cette question sur l'analyse première qui est celle de Freud. Enfin, il faut bien qu'il y ait un commencement à la psychanalyse, une invention, n'est-ce pas ? La question sur l'analyse première est incluse dans ce que Lacan appellera désir du psychanalyste. Je ne développerai pas, seulement qu'on ne s'y trompe pas. Le péché, non seulement est inéliminable puisqu'il est d'origine, mais de plus, c'est là le point intéressant, il fait partie de l'invention freudienne elle-même. Il est concordant avec cette invention. C'est ainsi que plus loin dans le séminaire, Lacan insiste sur le fait qu'en ce qui concerne Freud, la supposition de savoir n'a pas le même statut pour nous. Alors, je vous lis encore un autre passage, n'est-ce pas, mais qui me paraît correspondre au précédent. C'est pourquoi, en un sens, on peut dire que celui-là à qui l'on peut s'adresser, il ne saurait y en avoir, s'il y en a qu'un seul. Ce un seul fut de son vivant Freud, le fait que Freud, concernant ce qu'il en est de l'inconscient, était légitimement le sujet qu'on pouvait supposer savoir, spécifie, mais à part, tout ce qu'il en fut de la relation analytique quand elle était engagée par ses patients avec lui. Il ne fut pas seulement le sujet supposé savoir, il savait. Bon. Alors évidemment, nous sommes tributaires de l'invention freudienne comme de son péché, qui suppose ce qui se guérit, mais aussi ce dont on ne guérit pas. Ainsi, il y a une vraie différence de destin. Certes, on ne guérit pas plus de la névrose que du discours qui la trame. Mais si l'homme accepte le plus redoutable, et si la femme sait à quoi elle peut renoncer dans chaque cas, et à quoi elle ne doit pas renoncer, c'est les deux, hein, de sorte qu'elle adapte sa quête de l'impossible à ce qui se rencontre, alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci.